Amis, frères et sœurs, la grâce, la paix de Dieu, notre Père, l'amour de Jésus-Christ, la consolation de l'Esprit-Saint nous sont offerts ici et maintenant pour que nous vivions ce culte, le cœur au repos et l'esprit apaisé. En ce quatrième dimanche de l'Avent, marqué symboliquement par 4 bougies allumées sur cette couronne, je vous souhaite la bienvenue à chacun, chacune, pour ce temps de culte. Bienvenue dans ce lieu de prière, et que vous soyez des habitués du lieu, ou que vous veniez ce matin pour la première fois, vous êtes ici, chez vous. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le site internet ou celui des réseaux sociaux. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Merci à David Cassan, organiste co-titulaire à l'orgue ce matin. Mes amis, ils ont vu la lueur, ils exultent. Ils se sont hâtés de retourner dans leur pays de chaque jour. Leur allégresse est si grande qu'elle déborde dans leurs paroles et transparaît dans leur visage. Ils racontent ce qu'ils ont vu et tout ce qu'ils ont appris au sujet de la lueur. Préparez-vous, elle vient chez vous, la lueur. Elle brillera jusqu'au fond des sombres impasses de vos existences. La joie qu'ils communiquent est si grande qu'elle se met à resplendir tout pareil à un éclat de soleil. La joie a l'étrange pouvoir de faire étinceler la lumière sur la terre humaine. 4 lueurs déchirent maintenant la nuit. Sur la 4e bougie de l'Avent brûle la flamme de la joie. Je vous invite à ouvrir ce culte en prenant le premier répon. Les répons, vous les trouverez juste au début du psautier français dans la liturgie qui est préparée à votre attention. Un ange est passé. Avez-vous le silence entendu? Du temple de Jérusalem, il regagnait l'univers invisible. Il venait de rendre visite à Zacharie. L'ange est revenu. Avez-vous le silence entendu? Des montagnes de Judée, il regagnait l'univers invisible. Dans ses yeux perlait l'émotion de l'Amen, recueillie sur les lèvres si jeunes de celle qui venait d'offrir le service de son obéissance à l'accomplissement du Verbe, au tréfonds de son existence. Des myriades d'anges vont revenir. Entendrez-vous leur clameur? Aux bergers décontenancés, ils chanteront que la gloire de Dieu sur terre est venue camper. Le souffle d'un nouveau-né fera doucement remuer la paille d'une crèche isolée. Il n'y a pas de doute, la parole est en train d'être semée dans la glèbe de notre humanité. Je vous invite à poursuivre notre louange en prenant maintenant le chant du psaume 98 que vous trouverez dans le psautier français. Psaume 98, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3.
Entends.
Prenez place. Écoutons encore ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement : aime ton prochain comme toi-même. Prions ensemble. Tu es l'hôte annoncé. Ô mon Dieu, je t'attends. Tu es celui qui doit venir. Laisse-moi te donner ce nom. Il est voilé, mais sans phare. Tu es l'hôte annoncé dont chaque jour j'attends l'évidence. Tu es la joie que ma prière voudrait accueillir. Je t'attends. Tu es celui qui doit venir. En t'attendant, le temps est long et il a fallu le meubler d'agissements. J'ai appris la solitude, le rire, la peine et la violence du monde déchu. J'ai déchiffré les visages et les gestes de mes compagnons de routine. J'ai construit des machines de rien. Je me suis affairée à des jeux d'enfants pauvres et je me suis débrouillée. Livré à moi-même. Je t'attends. Tu es celui qui doit venir. Je suis prêt pour toi. En moi, la paix descend d'au-delà des collines, comme une naissance seconde qui fait tout éternel. Je t'attends. Tu es celui qui doit venir. Accueillir la grâce renouvelée de la part de Dieu, je vous invite à vous lever. Mon frère, ma sœur, mon ami, ton attente se termine. Regarde la lumière qui vient. Cette lumière est celle de l'amour plus fort que la mort. Alors, mes bien-aimés, nous dit l'apôtre Jean, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. Et voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu au milieu de nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que, par lui, nous vivions. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Nous restons debout pour confesser notre foi avec un texte que je vous propose de la part du pasteur Vincent Schmitt. Je crois en Dieu. Par lui, l'univers et notre existence sont créés toujours à nouveau. Dans le grand chantier du monde, son esprit nous anime, il nous porte, il donne à chaque jour, à notre vie, un sens positif, une dignité, une vocation créatrice. Dieu est l'avenir de l'homme et sa présence dépasse l'espace et le temps. Je crois que Jésus nous a fait entendre sa parole. Il est celui que nous écoutons et auquel nous regardons pour savoir qui est Dieu et qui est l'homme. En Jésus, l'homme et Dieu sont à jamais liés, réunis, inséparables. Il reste pour nous et pour le monde une lumière. Nous reconnaissons une seule Église universelle, visible et invisible, connue de Dieu seul, et nous croyons à l'amour plus fort que la mort. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, d'éternité en éternité. Prenez place. Nous lirons aujourd'hui un extrait de l'Évangile de Luc au chapitre 1, les versets 26 à 38. Dans la traduction que j'ai prise dans la traduction œcuménique de la Bible. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. » À ces mots, Elle fut très troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation conjugale ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi « celui qui va naître sera saint et sera appelé fils de Dieu. » Et voici que Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. » Et l'ange la quitta. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Et dans le recueil Louange et prière, je vous invite maintenant à prendre le cantique numéro 113. Cantique numéro 113. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 et je vous invite à vous lever. Prenez place. Prions ensemble. Éternel, que ta parole nous atteigne au plus profond de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos volontés rebelles ou défaillantes. Que ta joie nous attende au terme de nos chemins semés d'obstacles et bordé de merveilles, car tu es le Dieu de l'amour et de la vie, et tu prends soin de chacun, chacune de nous. Esprit Saint, remplis nos cœurs afin qu'ils nous rendent disponibles et accueillants à ta présence. Amen. Amis, frères et sœurs, il y a des textes de la Bible qui dérangent parce qu'on ne sait pas très bien quoi en faire. Et celui de ce matin en fait partie. Cet ange qui vient rendre visite à Marie, c'est tout de même une drôle d'histoire, qui n'a pas fini de faire couler de l'encre ni même de la salive. Finalement, tout aurait été si simple si Luc l'avait écrit autrement. Par exemple, il aurait pu dire que Marie était une jeune fille entre 16 et 18 ans, qu'elle était fiancée à un garçon qui s'appelait Joseph. Il aurait pu dire que Joseph était fou amoureux de Marie et que Marie aimait Joseph tout aussi passionnément. Et on aurait pu nous écrire leur histoire d'amour à la manière du Cantique des Cantiques. Pourquoi pas ? Alors bien sûr, on ne badine pas avec les relations sexuelles avant le mariage, en ce temps-là. Mais voilà, on aurait pu nous dire quand même que Joseph et Marie avaient tout simplement oublié de rentrer de chez leurs parents, comme tous les amoureux du monde. On aurait pu nous dire qu'ils avaient passé leur première nuit ensemble avant d'être mariés. On aurait pu aussi nous dire que Marie, découvrant sa grossesse quelques semaines après, avait mis Joseph devant ses responsabilités. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Tu m'épouses quand même, oui ou non ? On aurait même pu nous raconter comment Dieu était venu leur parler en leur disant qu'ils pouvaient garder ce bébé sans crainte, car cet enfant était promis à un destin hors du commun. D'ailleurs, c'est tout cela qui est arrivé. Finalement séparément, dit à Joseph dans l'évangile de Matthieu ou dit à Marie, comme ici dans l'évangile de Luc. Avouez tout de même que cela nous aurait sacrément arrangé. Et finalement, cela n'aurait pas changé grand-chose au destin de Jésus. L'incarnation de Dieu dans le monde aurait commencé vraiment par le tout début, y compris avec la délicate question de la sexualité qui perturbe tout le monde depuis la fondation du monde. Et non, il n'en est rien. Connaître ou ne pas connaître, telle est la question. Aimer en esprit, c'est magnifique. Mais aimer avec la chair, c'est beaucoup plus douteux. Derrière subsiste encore et toujours la délicate question de la faute et du péché. Alors, mes amis, frères et sœurs, il faut que nous fassions le deuil d'un récit biblique qui nous satisfasse. Il nous faut faire avec le récit de l'ange Gabriel qui vient rendre visite à Marie, jeune fille pure et vierge, avant son mariage avec Joseph. Et donc, si on suit le texte biblique au pied de la lettre, il nous faut faire aussi le deuil que Joseph ne soit pas le père biologique de Jésus, ou en tout cas, qu'on ne nous le dise pas, et admettre contre mauvaise fortune bon cœur que Joseph est invité à accueillir sa future épouse enceinte de quelqu'un d'autre, même si c'est de Dieu lui-même, et zut, le mystère demeure. Alors, que voulez-vous ? Ce qui s'est passé, en vrai, eh bien, on ne le sait pas. Et on ne le saura jamais. Tout ce que nous avons à nous mettre sous là-dedans, c'est ce récit de Luc qui raconte non pas quelque chose d'historique ou voire de gynécologique, même si Luc est médecin, mais qui vient nous dire autre chose. On ne sait rien de la vie de Marie, sinon qu'elle est fiancée à Joseph. Autrement dit, elle est au seuil de sa vie d'adulte. Toutes les décisions qu'elle prend maintenant vont orienter sa vie future. Et est-ce qu'on sait seulement ce à quoi Marie aspirait ? Non, on ne sait rien. Mais peut-être, sans doute, veut-elle faire comme tout le monde, comme ses parents, aller à la synagogue, avoir des amis, se marier, mettre au monde ses enfants, réussir son mariage, sa vie de couple, être une bonne maîtresse de maison, vieillir entre son mari et ses enfants. En tout cas, c'est ce qu'une jeune fille de Palestine, en ce temps-là, peut rêver tout simplement, parce qu'il n'y a vraiment pas d'autre possibilité. Pas question d'avoir une aventure, pas question de suivre la mode, pas question de s'éclater. Marie est une jeune fille sans doute idéaliste, comme toutes les jeunes filles en fleurs. Nourrie de la parole de Dieu, elle prend au sérieux l'alliance que Dieu fait avec son peuple de génération en génération. Elle écoute et elle essaye de comprendre. Elle attend aussi ce Messie annoncé par les prophètes de la première alliance. La seule alliance d'ailleurs, pour l'instant, il n'y en a qu'une. Mais peut-être aussi rêve-t-elle d'un monde meilleur, d'un monde différent, débarrassé de la violence, des faux-semblants, avec juste un peu plus d'amour que d'ordinaire, de justice et de paix. Un monde où l'on pourrait pleurer de joie au lieu de verser les larmes du chagrin et de la souffrance. Et nous aussi, mes amis, nous rêvons à ce monde meilleur. Mais dans le contexte de Marie, c'est autre chose. Marie n'a vraiment pas son mot à dire. Elle ne peut faire que l'expérience de sa faiblesse et de son impuissance. Elle vit dans un monde d'hommes qui décident de tout et elle ne décide de rien. Donc Marie a appris à se taire, à écouter et à accueillir. Elle n'a pas appris à décider, à juger ou à trancher. Elle est toute attente. En éveil à la vie, en éveil à la foi. Et ces attentes rejoignent les nôtres si nous savons écouter l'Esprit de Dieu qui chante en nous. Et voilà la force de Marie. Chanter le monde et l'espérer meilleur du plus profond de sa propre vie, alors que ceux qui sont les décideurs, ceux qui ont le pouvoir, le savoir et même la sagesse ont tant de mal à construire ce monde meilleur. Ce monde que chacun rêve dans le secret de son cœur. Alors Marie espère en silence. Et c'est justement dans ce silence que Dieu vient la rencontrer. Elle fait l'expérience de cette présence tangible, de ce choc, de ce coup de poing dans le ventre. Elle fait l'expérience du divin tout proche d'elle à la manière d'un souffle, à la manière d'une voix. Elle fait l'expérience d'une présence invisible mais palpable. Elle découvre que Dieu vient à elle comme il est venu auprès de celles et ceux qui l'ont précédée. Dieu s'approche du monde en passant à travers elle. Il ne peut faire que cela, Dieu, car Marie ne lui fait pas d'obstacle. Parce que Dieu a la première place en Marie. Et l'impossible devient possible, tout simplement parce que Marie ne met aucune barrière pour l'accueillir. À ce moment-là, Dieu est tout discret. Il s'est presque retiré du monde, il ne parle plus. Alors les hommes ne savent plus comment faire pour aller à lui. Ils bâtissent des sanctuaires, ils sacralisent le temple, ils font une multitude de sacrifices. Tout cela devient presque indigeste. Ils répètent inlassablement des prières mécaniques qui perdent leur sens. Ils s'usent les yeux sur des rouleaux sacrés. Ils se raidissent dans leur compréhension de la Torah. Ils font passer la lettre du texte avant l'esprit. Ils calculent tout. Ils organisent tout. Ils font place à leur savoir théologique avant de faire confiance. Et Dieu n'a plus de place dans le rituel si savamment orchestré. La foi s'amenuise, sauf dans le cœur de quelques-uns, dont celui de Marie. Dieu, qui est bien au-delà de la sagesse des prêtres et des anciens, se révèle totalement présent, et présent totalement gratuitement à cette jeune fille du nom de Marie, qui accepte de construire sa vie sur la confiance, sur le service, en s'en remettant sans aucune arrière-pensée, ni doute, ni suspicion au Dieu de ses pères, et peut-être plus encore au Dieu de ses mères, Sarah, Rebecca, Rachel, Léa, Anne, Ruth, Hulda, Myriam, Bethsabée, Tamar. Elle sait ce que cela veut dire concrètement, et à travers Marie, Dieu s'approche des êtres humains. Il vient se mettre à leur niveau pour mieux les élever à lui en les portant. Alors, tant pis si nous ne comprenons pas tout de ce récit de l'Annonciation, et tant pis s'il heurte nos pensées cartésiennes, et tant mieux si la virginité de Marie reste toujours une question, car c'est à nous tous de chercher ce que cela veut dire pour nous. Le texte est juste là pour nous dire que Marie a trouvé grâce aux yeux du Seigneur, et qu'à travers elle, c'est chacun et chacune de nous à qui Dieu vient dire par l'intermédiaire de l'ange du messager que nous aussi, quelles que soient nos vies, belles ou tumultueuses, organisées ou désordonnées, nous avons trouvé grâce à ses yeux. Oui, mon frère, ma sœur, mon ami, toi aussi, tu peux vivre de l'Esprit Saint et à travers toi, l'amour infini et sans condition de Dieu peut prendre forme dans ta vie et dans le monde. C'est comme cela que le changement s'amorce. L'ange Gabriel annonce à Marie sa prochaine maternité et pas la moindre, puisque l'enfant qu'elle mettra au monde sera reconnu plus tard par certains comme le Fils de Dieu. Le texte de Luc nous présente la vie de Marie, acceptant sans résistance tout ce qui lui tombe dessus. Elle accueille avec une réelle disponibilité de voir sa vie personnelle détournée de son projet initial, à savoir un avenir tout tracé avec Joseph et réorienté par Dieu, par l'intermédiaire de la venue de cet ange mystérieux et aussi du don de l'Esprit dont Marie va être remplie pour concevoir. C'est un récit énigmatique. Comment faut-il le prendre ? Au sens propre, au sens figuré. Quoi qu'il en soit, il y aura toujours plusieurs niveaux de lecture à ce récit biblique de l'Annonciation. Et si nous voulons savoir ce que ce récit peut nous dire à chacun et chacune dans notre vie et notre foi, eh bien, nous ne pouvons pas faire l'économie de l'étudier, de le recevoir, de l'accueillir comme un témoignage et de voir comment ce témoignage nous fait vivre. Par ce récit, l'évangéliste Luc veut simplement nous rappeler, même si c'est une évidence pour certains, que rien n'est impossible à Dieu. Et le travail de Luc, l'évangéliste, c'est de nous en convaincre. Dieu peut tout, absolument tout, 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 avons-nous entendu dimanche dernier dans la pièce de Noël Harry Pasteur. Selon Luc, c'est Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui maîtrise aussi la vie dès le commencement et jusqu'à la fin. Et que pour lui, ni la vieillesse, ni la stérilité, comme pour Élisabeth, la cousine de Marie, ni la jeunesse, ni la virginité, pour Marie elle-même, ne constituent un obstacle au projet unique d'espérance que Dieu a pour l'humanité. Donner au monde Jésus-Christ, afin que chacun puisse être aimé en plénitude et sans obstacle. Et cela ne peut pas se faire sans les anges, autrement dit, étymologiquement parlant, sans les messagers. Et au fond, on peut reconnaître la présence de Dieu dans nos vies grâce aux anges, grâce aux messagers d'aujourd'hui, ces hommes et ces femmes de l'ombre qui, sans qu'on le sache, sans qu'ils le sachent parfois eux-mêmes, ont fait dérailler l'enchaînement mécanique de fêtes qui allait probablement briser nos vies. C'est sans doute pour cela que plus tard, l'auteur de la lettre aux Hébreux insistera dans ses deux premiers versets du chapitre 13 que l'amour fraternel demeure. N'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Faisant allusion au récit biblique de la Genèse, lorsque les messagers rencontrent Abraham à Mamré, lui annonçant que sa femme Sarah aura ce fils tant attendu, Isaac. La présence de Dieu peut faire irruption dans la vie de chacun, chacune, comme elle a fait irruption dans l'intimité de Marie. Cette présence ne se distingue pas forcément tout de suite. Elle a besoin de ce temps de gestation pour arriver à son terme, pour être enfantée en réponse à notre attente muette et secrète. Nous rejoignons alors la prière de celles et ceux qui se tournent en toute confiance vers le Dieu de la vie avec ces mots « Esprit Saint, remplis nos cœurs. Viens mettre ton espérance et ta vie là où normalement et humainement nous n'attendons plus rien. Viens mettre ton impossible dans notre possible. Donne-nous de ne pas désespérer du monde, même si le monde nous montre son visage le plus immonde. Notre prière rejoint l'espérance secrète de Marie en nous renvoyant à notre propre espérance. Qu'attendons-nous ? Qu'attendons-nous de la part de Dieu ? Et ce que nous attendons de lui, comment allons-nous l'exprimer ? Que nous manque-t-il réellement dans nos vies ? Est-ce qu'il ne nous manquerait pas la même disponibilité que Marie pour nous aussi accueillir le projet de Dieu en nous ? Esprit Saint, remplis nos cœurs, mais attention, ce n'est pas tout de le dire. Parce que Dieu peut répondre à notre attente d'une façon totalement inattendue. Alors, sommes-nous prêts, mes amis, mes frères et sœurs ? Sommes-nous prêts à cette irruption souvent incongrue, dont la promesse est juste de rendre nos vies fécondes ? Le Fils de Marie, Jésus, plus tard, ne déclarera-t-il pas « Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et la vie en abondance. » En célébrant ce quatrième dimanche de l'Avent, nous célébrons l'irruption de Noël, fête de la vie, non pas en quantité, mais en qualité, dans le sens d'une plénitude de vie. Alors, si Jésus est un grand oui à la vie, cela commence par le oui dans l'intimité de Marie et se prolonge par notre oui à nous tous. Amen. dans le recueil Louanges et prières. Je vous invite maintenant à prendre le cantique numéro 88. Cantique 88. Nous chanterons de ce cantique les strophes 1, 2, 4 et 6. Je vous invite à vous lever. Prenez place. Et j'invite maintenant Aurore Sagliot-Thébault, présidente de notre conseil presbytéral, pour nous faire quelques annonces.
Merci Agnès. Bonjour à tous. Vous êtes venus finalement assez nombreux pour un 25 au matin. Alors tu sais, Agnès, je voulais t'envoyer un article, alors je vais le faire tout à l'heure, mais que j'ai lu hier dans le Huffington Post. À Noël, on a encore plus envie de faire l'amour et les explications de la science sont implacables.
Bon, bah alors, ça tombe bien.
Je te l'enverrai. Je le mettrai peut-être dans la newsletter. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, sachez que tous les vendredis, nous envoyons un email vous donnant le programme de la semaine qui suit. Avant de vous faire des câlins, venez ce soir à la veillée. À partir de 19h, nous ouvrons les portes à 18h30 et demain, culte de Noël, à 10h30, nous ouvrons les portes à 10h. Vito, notre libraire, est là. Nous avons réachalandé la librairie. Ça fait toujours plaisir d'avoir un livre. Donc, si vous avez un déjeuner ou dîner, passez prendre un livre. Notamment, la semaine dernière, beaucoup d'entre vous nous ont réclamé le dernier livre de Louis Pernaud, qu'il a présenté il y a 15 jours. Je suis passée à l'Étoile avant-hier, il m'en a donné, donc vous en avez aussi à la librairie. Vous avez d'excellents ouvrages également, notamment de Thomas Römer qui est avec nous aujourd'hui. Donc vraiment, n'hésitez pas, un livre, ça fait toujours plaisir. Donc on se retrouve ce soir à 19h pour la veillée, dès 18h30 pour la librairie, et demain, 10h30.
Culte avec Sainte-Seine, demain.
Culte avec Sainte-Seine, tu as raison, demain.
Oui.
Jeudi, pause spirituelle.
Oui.
Et dimanche prochain, 31 décembre, c'est Béatrice Cléromazir qui montera en chair.
Oui.
Voilà, je vous souhaite, pour ceux qu'on ne revoit pas ce soir, d'ores et déjà un excellent Noël au nom de l'Oratoire du Louvre et de tout le Conseil presbytéral. Et puis c'est le moment de l'offrande, le don joyeux. Vraiment, soyez très très joyeux. Il y a des magies à Noël. Je suis sûre que nous allons boucler notre budget avant la fin de l'année, si tout le monde s'y met. Merci infiniment. Également, juste un petit me pour toi, me, qui va assurer la vidéo pendant les 3 jours, les 3 cultes, enfin les 2 jours, les 3 cultes, et également une pensée pour Gérard, son époux, qui n'est pas très en forme en ce moment, qui est à la maison et qui va se faire opérer la semaine prochaine. Voilà, donc vraiment une grande pensée pour toi, Gérard. Merci.
Unissons-nous dans la prière d'intercession, la prière les uns pour les autres. Éternel Dieu de la vie, Nous voici tels que nous sommes, ici et maintenant. Et notre prière n'est pas un catalogue de situations que nous pourrions te confier et que tu connais beaucoup mieux. Notre prière, c'est une manière d'être en communion les uns avec les autres. Et nous faisons défiler dans notre cœur, mais aussi dans notre pensée, toutes les souffrances qui sont mises devant nos yeux, toutes les situations compliquées, les situations difficiles, les situations de solitude et de précarité, de mort et de blessure, les situations de manque de fraternité, de tristesse et de révolte. Que ce soit au loin, que ce soit dans notre vie, nous te confions tout ce qui nous pose souci, tout ce qui nous fait question. Et dans cette confiance que Marie a révélée en disant « Oui, qu'il m'advienne selon ta parole », eh bien, c'est dans cette même confiance que nous déposons tout à tes pieds. Dans cette espérance que quelque chose de bon, quelque chose de bien va advenir d'une façon ou d'une autre. Nous pouvons croire ou penser que c'est impossible, mais mon Dieu, ta parole nous redit inlassablement que malgré les apparences, c'est toi qui viens mettre ton possible dans tout ce que nous croyons impossible pour nous, humains. Alors, s'il te plaît, enracine-nous dans cette confiance, ranime la foi qui est peut-être vacillante en nous, et que cette période de Noël, si contrastée, soit d'abord un moment de calme, d'apaisement dans notre quotidien, que nous puissions reprendre des forces pour le temps qui nous reste à vivre. Alors nous te confions celles et ceux qui, de par le monde, demandent inlassablement le secours de notre prière, le secours de notre solidarité, le secours de notre amour, tout simplement. Et nous ne pouvons pas nous quitter sans te dire dans cette confiance renouvelée la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevons maintenant la bénédiction de la part du Seigneur. Mon frère, ma sœur, mon ami, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel porte sur toi son regard et te donne sa paix. Amen. Je vous souhaite un très beau dimanche, puisque c'est dimanche aujourd'hui. Je vous retrouve peut-être ce soir à 19h. Et écoutez, beaucoup de joie pour vous.